autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour nous interroger ensemble sur les liens qui nous constituent, nous et tout le vivant, mais aussi tous les savoirs en interdépendance. Comment remettre au centre, retisser et cultiver ces liens essentiels, indispensables, pour relever les multiples défis environnementaux, sanitaires, politiques, économiques, sociaux et psychiques auxquels nous sommes confrontés, car on le sait bien, ce sont ces liens qui nous font vivre et qui nous tiennent, à tous les sens du terme. Les liens qui libèrent, pour reprendre l'éclairante formule du regretté Bernard Maris, qui a inspiré la maison d'édition du même nom, a lancé une formidable aventure collective. La constitution des liens et le parlement des liens. Déjà plus de 50 penseurs et penseuses, scientifiques, philosophes, artistes, chercheurs et chercheuses de toutes disciplines, ont ouvert le dialogue et les portes de nos imaginaires pour éclairer les transitions vers nos futurs communs. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. C'est aussi cette notion même d'Ubuntu, si chère au cœur de Madiba, de Nelson Mandela, que nous vous proposons de partager ensemble, ici et maintenant, sur RFI, avec nos invités. Sophie Marinopoulos, psychanalyste, fondatrice et éditrice des Liens qui Libèrent, et le philosophe Mathieu Pot-Bonneville, aujourd'hui directeur du département Culture et Création du Centre Georges Pompidou à Paris, qui accueille ce Parlement des Liens. Autour de la question, pourquoi et comment nous relier ? Bienvenue pour faire lien ensemble dans et avec tous nos sens.
Il y a des choses à faire ici et maintenant, partout où on est, parce que partout, le lien est en souffrance et partout, il y a des bonnes volontés qui ont commencé de se lever.
Bonjour Sophie Marinopoulos.
Bonjour.
Bonjour Mathieu Pot-Bonneville.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être en direct avec nous pour tisser, retisser nos liens ensemble, entre hommes et femmes de bonne volonté, pour reprendre les termes du philosophe Abdennour Bidart. Il et elles sont nombreuses, nombreux à avoir répondu à votre appel, si j'ose dire, Sophie Marinopoulos, à l'appel lancé par votre maison d'édition, si joliment nommée Les Liens qui Libèrent, à réfléchir ensemble à une constitution de liens, de ces liens qui nous constituent justement, et à parlementer, à palabrer, à échanger autour d'un parlement des liens qui s'est tenu alors chez vous, au Centre Georges Pompidou à Paris, Mathieu Pot-Bonneville. Il y a aussi un ouvrage que j'ai sous les yeux, Relions-nous, qui vient de paraître et qui rassemble différentes contributions, dialogues, réflexions, interrogations partagées par donc ces chercheurs, ces chercheuses, penseurs et penseuses de tous horizons et de toutes disciplines sur cette absolue nécessité de faire, de refaire lien. Pourquoi est-ce que ça s'impose tant aujourd'hui, Sophie Marinopoulos ?
Bien, je pense que bien avant le Covid, parce qu'on a souvent tendance à imaginer que le Covid serait peut-être à l'origine de nos malheurs d'aujourd'hui, bien avant le Covid, nous étions déjà en souffrance. Nous avons oublié de quoi nous sommes constitués. Il y a un auteur cher en psychanalyse qui s'appelle Winnicott et qui nous dit régulièrement « un bébé tout seul, ça n'existe pas », pour nous rappeler que nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres de lien, nous ne pouvons pas grandir sans un autre que nous-mêmes, et ça se joue dès l'enfance.
Mais vous
ça
êtes spécialiste, psychanalyste et psychologue spécialiste,
spécialiste des
de la
tout petits, en particulier des bébés, qui nous donneraient des très très jolies leçons pour nous relier, et donc qui nous montre que tout au long de notre vie, nous avons besoin de partager, d'être ensemble, de dialoguer, et ce parlement vient avant tout, vous l'avez dit très joliment et je vous en remercie, c'était pour parlementer. C'était pour partager, c'était pour engager un dialogue, pour qu'ensemble, nous puissions imaginer comment prendre les choses à bras-le-corps aujourd'hui, pour que nous puissions partager ce monde et habiter ce monde. Et d'ailleurs, habiter ce monde, ça a été utilisé par de très nombreux auteurs, qu'ils soient des scientifiques de sciences dures ou de sciences humaines ou d'écologie, tous ont repris ce terme. Alors, tout seul, on ne fait rien. Nous le savons, au Lien qui Libère. Ça faisait très longtemps que nous avions envie d'organiser quelque chose. Ça a pris du temps. Et puis, nous avons été soutenus par l'agence Communa, qui nous a aidés à passer le pas. Et surtout, je tiens beaucoup à le redire, nous avons appelé Mathieu Pot-Bonneville, qui a immédiatement trouvé ça formidable. Et j'insiste là-dessus parce que ça fait partie des liens. C'est-à-dire que les liens, c'est aussi porter de l'espoir ensemble, c'est donner de l'espérance. Et quand on l'a eu directement sur son portable, parce qu'il répond directement sur son portable à la place qu'il occupe, vous vous rendez compte, eh bien, on a entendu en écho un désir partagé. Et on a dit ça y est. Voilà, on
ça
est
va
arrivé.
Se faire et ça, ça se fait. Et il y a eu un parlement des liens, une première donc ébauche de constitution des liens. Le sous-titre de cet ouvrage, Relions-nous, c'est la constitution des liens, l'an 1. Alors Mathieu Pot-Bonnevie, donc en tant que philosophe, hein, ce que vous êtes, et en tant que directeur désormais du département culture et création du Centre Georges Pompidou, vous avez vous aussi répondu oui tout de suite, senti cette absolue nécessité qu'il y ait un lieu en fait pour parlementer autour des liens.
Oui, il m'a semblé que la vocation d'un lieu comme le Centre Pompidou, comme celui d'autres lieux d'art et de culture aujourd'hui, c'est d'ouvrir des espaces. D'ouvrir des espaces pour que les relations, les interrelations puissent être explorées, réfléchies, interrogées, parlées d'une certaine manière, parce que nous en avons besoin. Vous rappeliez que je suis philosophe. La philosophie est un certain exercice de l'intelligence, mais intelligence, ça veut dire interligueré, relié ensemble. Mm-hmm. L'intelligence, c'est une certaine pratique, un certain art de la mise en relation. Et cette mise en relation, elle peut s'effectuer aujourd'hui, elle doit s'effectuer aujourd'hui dans ces espaces. Le Centre Pompidou, depuis sa création, c'est sa vocation d'une certaine manière d'accueillir tous les arts, toutes les formes de culture, toutes les formes de pensée, et de les faire se frotter les unes contre les autres pour que des étincelles surgissent. Donc au fond, le rôle aujourd'hui des institutions culturelles n'est pas de dispenser un savoir, délivrer un message, il est plutôt de créer les conditions telles que ces relations, tous ces savoirs, toutes ces expériences qui circulent à l'intérieur des sociétés puissent trouver à se rencontrer. Nous devons constituer des espaces de rencontre, à chaque fois originaux. Hein, pour le Parlement des Liens, nous avons imaginé un espace et un dispositif assez singulier avec des casques. Les participants, les intellectuels et les penseurs et les artistes qui participaient se parlaient l'un à l'autre, comme on se parle à une table, sans souci de qui les écoute. Et puis le public pouvait les écouter autour, de telle sorte que les conversations étaient presque chuchoter. Elle perdait ce côté un peu frontal qu'on peut avoir quand on s'adresse à un public du haut d'une tribune. Elles étaient de pair à pair, elles étaient à hauteur, à parts égales, comme dirait l'historien Romain Bertrand. Et au fond, on pouvait les écouter, s'y plonger, s'y immerger avec toute l'attention que requiert la découverte de choses fragiles. Parce qu'il faut dire cela aussi, c'est que les liens dont nous parlons aujourd'hui, ce sont les liens, ce que le sociologue Granovetter appelait les liens faibles. Il y a un article très célèbre qui s'appelle « La force des liens faibles ». Ce sont les petits liens, ce sont les petites fibres qui relient les savoirs, qui relient les expériences, qui relient les lieux entre eux, qui peuvent aujourd'hui éclairer notre présent. Donc c'est difficile à entendre. Ça.
Mais oui, parce qu'effectivement c'est ténu. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs internautes qu'ils peuvent tout à fait, sur Internet justement, le lien est sur notre page, écouter ces conversation de ce parlement des liens. Et puis vous disiez, c'est ténu ces liens, mais on sait aussi aujourd'hui, et à nouveau dans toutes les sciences, dans tous les champs disciplinaires, que c'est pas le séparatisme qui nous fera avancer, c'est même le contraire, et que dans tous les savoirs, c'est vraiment l'interdisciplinarité, vous dites aussi la transdisciplinarité, moi j'ai envie de dire l'indisciplinarité, qui nous fait avancer, c'est ça, c'est vraiment contre les séparatismes. Et d'ailleurs, dans tous les savoirs aujourd'hui, on sait que c'est l'interdépendance.
Et ce qui est absolument incroyable lors de ces trois jours, c'est comment chacun a accepté de se mettre dans cette situation vulnérable, parce qu'il était aussi question de ça, d'aller rencontrer un autre qu'on ne connaît pas forcément, un savoir qui n'est pas le nôtre et sur lequel on va partager. Donc tous ces, on les a appelés des auteurs et des penseurs, des imminents auteurs et penseurs, dans le sens où tous nous ont proposé non pas des points de vue, mais des points de vie, pour plagier Coccia, Emmanuel Coccia, c'est-à-dire qu'ils sont pas
philosophes et grands amateurs d'arbres
et qui étaient parmi nous et qui justement ont pu accepter ce moment de presque de déséquilibre dans un équilibre à trouver ensemble. Voilà, il y a eu une espèce d'enthousiasme. Ils ont tous répondu présent.
Alors, avant de les entendre justement en dialogue, on a choisi quelques-uns, mais vraiment, je vous renvoie, chers amis auditeurs et internautes, sur ce Parlement des liens. Je propose d'écouter le penseur qu'on a écouté en accroche de cette émission, le philosophe et spécialiste de l'islam Abdennour Bidar, grand esprit libre et ouvert. Alors lui, évidemment, comme vous, Sophie Marinopoulos, comme vous, Mathieu Bonneville, cela fait des années qu'il réfléchit à cette question des liens. Il publiait en 2016 un ouvrage intitulé « Les tisserands », dans votre maison d'édition d'ailleurs, « Les liens qui libèrent », dans lequel il nous invitait tous à retisser nos liens, où qu'on soit sur Terre, quelle que soit notre fonction, notre travail, notre position sociale, donc de devenir des tisserands. Je propose de l'écouter, Abdennour Bidar. C'était ici même, dans ce studio, en 2016.
Le monde est peut-être complexe, mais on peut quand même poser un diagnostic général qui est cette crise généralisée des liens. Et je l'étudie sur trois plans. Le plan de notre rapport à la nature, le plan de notre rapport aux autres et le plan de notre rapport à nous-mêmes également. Et j'essaie de montrer, au sujet de ce que j'appelle donc le triple lien, le lien à la nature, le lien aux autres, le lien à soi, qu'il y a sur ces trois plans une même crise qui, évidemment, va se manifester différemment, va avoir des symptômes différents, mais toujours avec ce résultat terrible de nous laisser en souffrance parce que nous nous retrouvons privés d'un lien nourricier, d'un lien dont nous avons besoin. Regardez la crise écologique, c'est le lien à la nature qui souffre depuis des décennies. Une nature par rapport à laquelle nous nous conduisons, comme le disait déjà Michel Serres, depuis le début des années 90, nous nous conduisons en prédateurs. Où nous nous conduisons en parasites. Donc nous avons à retrouver l'art d'un lien que les biologistes appellent un lien symbiotique à la nature. Qu'est-ce que c'est qu'une symbiose? C'est très simple. Une symbiose, c'est une relation mutuellement profitable entre deux êtres. Donc à quand allons-nous passer justement du statut de prédateur ou de parasite à celui de symbiote?
Quand allons-nous devenir symbiotes en symbiose? J'ai entendu ici même de nombreux biologistes effectivement nous rappeler à quel point dans la nature, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, c'est en symbiose que ça fonctionne, Mathieu Bonneville.
C'est vrai que le modèle de la symbiose aujourd'hui fait l'objet de grands intérêts. Il y a aujourd'hui à Barcelone une très belle exposition autour de cette question de la symbiose qui s'appelle « Science friction » et qui est sous-titrée « La vie avec nos espèces compagnes ». L'idée que nous sommes au fond accompagnés dans nos existences par tout un écosystème, par tout un ensemble de relations avec lesquelles nous sommes commis à vivre et sans lesquelles nous ne vivrions pas. Donc en effet, la symbiose est aujourd'hui un modèle possible pour penser autrement notre relation à l'environnement, autrement comme une relation de domestication, de maîtrise ou d'exploitation, d'extorsion, d'extraction, comme on dit pour les énergies fossiles, penser à un autre type de lien. Ce qui me frappe dans l'extrait d'Abdennour Bidar, et là où j'aurais envie d'introduire une espèce de codicille, c'est que crise des liens, bien sûr, oui. Bien sûr, un certain nombre de liens n'ont pas fait l'objet de l'attention qu'ils méritaient, et nous avons coupé bien des forêts de faute de prêter attention aux arbres. Mais dans le même temps, il y a aujourd'hui une formidable, une très riche inventivité des relations, une inventivité des relations humaines. Nous sortons de la quinzaine des fiertés un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce que c'est que la quinzaine des fiertés LGBT, sinon la célébration, l'affirmation de ce que se développe, se déploie, ont le droit de se déployer. Aujourd'hui, des formes de relations, des formes de liens qui sont riches, qui sont intéressantes, qui sont puissantes, et qui permettent à celles et ceux qui y entrent de vivre mieux, plus heureux, et rendant plus heureux les autres. Donc, crise du lien, bien sûr, mais inventivité des liens sociaux qui, je crois, constitue une partie de la réponse au problème.
Une partie de la réponse, une partie de l'espoir et de l'enthousiasme aussi. Sophie Marinopoulos, c'est vrai que de manière assez paradoxale, au fond, les liens sont à la fois en crise et en même temps, ce sont eux qui peuvent nous sauver et qui nous sauvent même au présent. Enfin, ça serait l'idéal, mais c'est un peu ça quand même.
Mais j'entends ce que dit Mathieu et bien sûr, il y a des mouvements qui nous laissent à penser qu'il y a une dynamique qui se crée. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne tient pas dans la durabilité et qui est quand même inquiétante. Bon, c'est vrai que pour ma part, je fais le constat de d'une mauvaise santé culturelle, c'est-à-dire une mauvaise santé de nos relations, que notre crise aujourd'hui sanitaire, c'est une crise de nos liens. Nous allons mal les uns avec les autres.
Psychiquement, individuellement et collectivement, c'est ça.
Psychiquement, individuellement, collectivement, dans le rapport en effet au monde du vivant, dans le rapport à nous-mêmes, dans le rapport à soi, à l'autre. Nous allons mal, nous sommes tellement appauvris. Moi, je parle de malnutrition culturelle pour dire que c'est un défi majeur pour la société de demain. Si nous n'allons pas bien individuellement, ce que dit bien sûr Abdennour quand il dit c'est le lien à soi, c'est en effet le lien à soi. Si on prend très très concrètement, comment est-ce qu'on construit le lien à soi ? Dès la naissance, il faut du temps, il faut des expériences sensibles, esthétiques, culturelles. Comment les enfants aujourd'hui sont pris dans cette disruption qui fait qu'ils n'ont pas le temps de faire des expériences qui leur permettent de grandir et de prendre des forces pour pouvoir affronter.
Il faut du
le
temps
monde.
Et il faut tous nos sens, si je vous entends bien, c'est ça.
Et il faut tous nos sens, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup écrit sur l'importance des tout-petits dans le monde de la culture. On doit pouvoir leur ouvrir à la fois nos musées, ce que vous faites d'ailleurs, ce qui se passe à Beaubourg. Mais on doit pouvoir leur offrir un certain nombre d'espaces dans lesquels leur appétence à comprendre le monde, à l'interpréter, à lui donner du sens, puisse se déployer. Au fur et à mesure que nos enfants grandissent, on rétrécit cet espace des liens. Et ça fait partie, c'est très concret, hein. C'est-à-dire que, du temps pour les enfants, du temps pour l'expérience, il n'y en a pas. Donc comment on va interroger...
Et il y en a de moins en moins, et au fond, on donne un tas de choses, enfin, on nous gave d'un tas de choses, mais on est un peu gavé sans avoir le temps de l'apprécier.
Nous sommes dans la saturation, nous sommes une société de saturation, pour reprendre les termes de Claude Allione, qui est un psychanalyste, et qui montre qu'en effet, nous sommes gavés. Donc nous sommes dans des pulsions d'avoir, des pulsions mortifères, hein, avoir, consommer. Et à aucun moment on peut construire, d'avoir une dimension élaborative imaginaire, de pouvoir construire à partir de la symbolique, qui est une nourriture qui n'existe plus. Aujourd'hui, ça serait la technique qui pourrait nous rendre heureux. Hein, vous savez, quand on veut quelque chose, et bien la technique va nous l'apporter.
Or, la technique est un outil, mais un outil, normalement, au service.
Mais à l'heure, puisqu'on veut toujours plus.
C'est ça.
Encore
c'est
plus, ça. Et encore plus. Et on s'y perd. Et on se perd. Et ça a été un peu aussi une culture du ralentissement que de proposer cette rencontre à Beaubourg, justement. On se pose.
On se pose. Une culture du ralentissement au Centre Georges Pompidou à Beaubourg, donc. Alors, après avoir accueilli ce Parlement des liens, vous allez encore, enfin, vous le faites en ce moment, hein, vous continuez d'ouvrir grandes les portes et les fenêtres du Centre Pompidou jusqu'au 19 juillet. Mathieu Bonneville, en résonance avec la saison Africa 2020, vous avez invité un sacré chorégraphe nigérian, Kudi Sonikeku, l'artiste rwandaise Dorothée Munyanenza, entre autres, et le musicien Kezia Jones, pour une saison estivale intitulée « Raconter le monde ». Raconter le monde en lien, évidemment, dans l'espace comme dans le temps. Nous, on a choisi d'écouter « Ancestors », morceau signé Kezia Jones, et vous verrez pourquoi tout à l'heure sur RFI.
Tell me what would our ancestors say when they see the way our world is today, where our freedom is nothing but a word, just like all those things they used to call love. Tell me, what would our ancestors do if it was them instead of me and you? Will their vision refuse to compromise with all this truth they are telling us our lies? Tell me, what would your ancestors give to those unborn and those who've yet to live? A desire for peace or marched enough to war? Or just let them dream of what could have been forevermore? Sing with me. What would our ancestors give to those unborn and those
Kezia Jones convoque nos ancêtres sur RFI et le fera bientôt sur la grande scène du Centre Georges Pompidou où il sera en concert le 9 juillet prochain. Autour de la question comment nous relier entre nous et avec tous les autres, qu'ils soient encore de ce monde ou pas, il a aussi beaucoup été question de nous relier à nos anciens, mais aussi à nos chers disparus dans ce parlement des liens lancé depuis le centre Georges Pompidou, Mathieu Pont-Bonneville, à partir de votre maison d'édition Les Liens qui Libèrent, Sophie Marinopoulos. Parmi tous ces entretiens croisés, ces dialogues chuchotés, nous avons choisi de vous faire écouter un des dialogues peut-être les plus inattendus ou inouïs entre deux femmes, deux penseurs, deux penseuses aussi, que tout sépare et que tout rapproche. La philosophe des sciences et de l'éthologie Vinciane Després, de l'Université de Liège, auteur entre autres de Habiter en oiseau et dernièrement de l'autobiographie d'un poulpe, et la rabbine Delphine Horwiller, du mouvement juif libéral, écrivaine et philosophe, auteur entre autres de Comprendre le monde et de Vivre avec nos morts. Extrait de leur échange sur la mort, autrement dit, sur la vie.
Il y a un très grand sage au Moyen-Âge, dans la tradition juive, qui a écrit des codes de loi incroyables. Il s'appelle Joseph Caro et il était assez mystique. Sa femme était stérile, enfin, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et lui, il était convaincu que ce qui lui avait permis d'avoir des enfants, c'est qu'il y avait un fantôme, qu'on appelle en hébreu un dibouk, qui était venu prêter sa semence à sa femme. Dans l'histoire, je raconte souvent ça comme la première procréation d'ibouquement assisté, mais qui suggère que, voilà, très avant les réflexions de bioéthique, des sages peuvent au Moyen-Âge ou même avant penser à l'idée qu'il faut un parent tiers, qui là est un fantôme. Donc ça montre bien qu'un fantôme, il peut vouloir beaucoup de bien, mais ça dépend effectivement quelle place on lui fait, comment on l'écoute.
Oui, mais c'était ce que Pavoukoun a montré, par exemple, pour les fantômes du Vietnam, c'est qu'il y avait des fantômes bienveillants qui vous donnaient des conseils qui vous permettaient de réussir dans la vie ou qui protégeaient votre petit garage de réparation de mobilettes. Raconte des histoires assez jolies là-dessus, qui montrent en effet que les fantômes sont aussi des êtres. Moi, si dans mon livre, j'ai pas parlé de fantômes du tout, par exemple, parce que les gens n'utilisaient pas ce mot-là. Donc, quand les gens parlaient de leur mort, et pourquoi ? Je pense parce que le fantôme est souvent un mort un peu impersonnel, ou en tout cas, il n'est pas votre proche, quoi. Ou alors, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Mais la façon dont ils parlaient de leur mort, c'était plutôt d'une présence plutôt bienveillante, affectueuse. Un fantôme, c'est déjà plus impersonnel. On rejoint le fantôme, soit politique. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que la politisation des fantômes, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire de nos fantômes? Comment est-ce qu'on va apprendre à converser avec eux après? S'il y a un après à cette pandémie, ce dont on peut douter. Mais enfin, quand on aura commencé à renégocier avec eux et éventuellement essayer de voir est-ce qu'on peut recoudre les lancelles, parce que peut-être que c'est ça aussi qui sera fait. Est-ce que vous y avez songé, ça, en tant qu'accompagnatrice, de qu'est-ce qui pourrait être fait?
Moi, je pense que la clé, c'est effectivement de penser la conversation qu'ont les vivants entre eux et la place qu'ils font encore à leur mort dans la conversation qu'ils vont pouvoir avoir, qui est forcément, c'est vrai, une conversation intergénérationnelle. La métaphore que j'utilise souvent, c'est la métaphore du panier. C'est-à-dire qu'en fait, une génération en hébreu, ça se dit faire un panier. Mais en fait, c'est pour moi une métaphore très... On reparle de couture d'une certaine manière, une métaphore très forte, que le panier, l'édifice ne tient debout que si on est suffisamment accroché à ce qu'il y avait et à ce qu'il y aura. Et donc cet édifice du lien est pour moi la clé, et c'est une clé de fait politique.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Quel étonnant échange entre la rabbine et philosophe Delphine Horwiller et la philosophe des sciences et éthologue Vinciane Després. Ça, c'est vraiment de l'échange. En plus, on parle intergénérationnel entre vivants et morts. On est où? On est au cœur même, justement, de la vie, de nos vies et des liens,
Sophie Marinopoulos. On est au cœur même de nos liens. J'adore cet échange. J'adore leur voix, leur pensée, et leur façon de mettre en scène et en récit. Parce qu'en fait, ce dont elles parlent, c'est du récit. Et c'est ce qui nous caractérise. Nous sommes une espèce...
Nous, les humains.
Nous, les humains, nous sommes une espèce fabulatrice, nous a dit et nous dit Nancy Huston. Et nous pouvons grandir et vieillir qu'à travers les mots qui nous constituent. Et chacune à sa manière, de façon très différente. Et en même temps, on les retrouve. Elles construisent des récits qu'elles nous proposent, qu'elles nous offrent. On peut adhérer ou pas. Et c'est ça qui était intéressant dans le Parlement des liens. Ça ne veut pas dire que ceux qui viennent au Parlement des liens vont adhérer à ce qu'elle leur est proposé.
Ni qu'ils ont la vérité infuse. Pas évidemment, non, pas du
Mais
tout.
Mais chacune va nous proposer, en effet, elle relie l'intergénérationnel. Elle vient nous proposer un tableau. Et comment chacun va l'interpréter? Elle nous offre une interprétation. Chacune a une interprétation. Elles prennent appui sur des repères différents, la dimension métaphorique pour Delphine, sur la question du panier, etc. Mais chacune va proposer une interprétation et de cette interprétation, elles vont faire une reformulation. Et d'ailleurs, Delphine Horvilleur, quand j'ai discuté avec elle, on a beaucoup échangé sur la question de la reformulation. C'est-à-dire... redire, moi je redis à mon petit patient qui va avoir 6-8 mois ce que ses parents m'ont dit de leurs émotions.
Et vous, elle, en tant que psychanalyste et psychologue de tout petit enfant.
On me dit, ah bon, tu travailles avec des bébés? Oui, je travaille avec des bébés, je vais leur reformuler ce qui m'a été signifié. Et elle va reformuler à la famille qui accompagne celui le défunt l'histoire que la famille elle-même a racontée, mais qu'ils vont entendre différemment puisqu'elle va l'interpréter à partir des mots qui lui ont été confiés. Donc, c'est ça, les liens. C'est, voyez le temps que ça demande.
C'est le temps, c'est effectivement une transmission. Mathieu Pot-Bonneville, en tant que philosophe, ça vous va, cette définition? Nous sommes, finalement, nous, les êtres humains, une espèce affabulatoire. En tout cas, nous nous racontons des histoires. Et ce sont ces histoires qui nous font vivre. Peut-être que toutes les religions sont aussi des histoires. Je n'ai aucun mépris pour cela, mais effectivement, chacun a son interprétation. Et peut-être qu'il est temps de revisiter un peu tout ça. C'est ça aussi, ou de se le retransmettre autrement à partir de ce que nous sommes aujourd'hui.
Oui, je crois que... Alors, moi, plutôt que le mot de narration, ici, je convoquerai la notion de fiction. Mm-hmm. Parce qu'il a été beaucoup question dans ces trois journées que nous avons organisées autour du Parlement des liens. Il a beaucoup été question de fiction, il a beaucoup été question de littérature. Et un certain nombre d'écrivaines et d'écrivains étaient mm-hmm. invités. Bon. Mm-hmm. Pourquoi? Non pas pour préférer à la considération de ce monde-ci l'invention d'un autre qui nous permettrait en quelque sorte de nous échapper ou simplement de rêver. Je ne crois pas que ce soit cela l'enjeu. Et lorsque Delphine Horvilleur et Vinciane Després évoquent ensemble les fantômes, jouent à évoquer ensemble les fantômes, ça n'est pas pour dresser en quelque sorte le tableau d'un monde surnaturel qui serait différent de ce monde-ci. Pas du tout. C'est pour rendre compte au plus juste de ce que nous vivons effectivement dans la relation avec nos disparus. Nous sommes nombreuses et nombreux cette année à avoir perdu quelqu'un, à avoir perdu parfois quelques-uns. Et cela dure encore hein, dans de nombreuses parties Bien du sûr. Monde. Et la question, c'est de savoir comment dire cela, comment dire la relation qui se poursuit là même où la personne avec qui on était en relation a disparu.
Et comment dire ce lien qui parfois nous tient en vie. Enfin, exactement. Je crois que c'était Hermann Hesse qui disait qu'au fond, on peut avoir un dialogue plus fructueux parfois avec nos morts, avec nos vivants.
Comment dire les 1000 attaches dont nous nous apercevons qu'elles existent dès lors que la personne qui était au bout de ces attaches a disparu et n'est plus. Et la fiction sert à ça. C'est-à-dire que la fiction ne sert pas à dresser un autre monde qui serait différent de celui-ci, mais à passer, à faire apparaître une nervure particulière du tissu des relations que nous entretenons avec les autres. Si j'avais une métaphore à mon tour à employer, je pense à ces jeux qu'on fait à l'école lorsqu'on frotte sur une feuille un crayon gras, vous savez, pour faire apparaître la forme, par exemple une pièce de monnaie qu'on cache dessous, et puis par frottement, ce qui est saillant, la partie saillante de la pièce va apparaître et se dessiner d'elle-même. Bien, je crois que la fiction sert à cela, elle sert aujourd'hui à faire apparaître des types de liens, des formes de nervures, par exemple ici, les liens que nous entretenons avec les disparus, de façon qu'on les voit mieux, qu'ils apparaissent pour eux-mêmes et que nous puissions du coup prendre la mesure de leur importance.
C'est ça, et quand vous dites fiction, c'est aussi pour ouvrir nos imaginaires à des futurs possibles, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans un moment de basculement où il est difficile de se projeter. Et au fond, la fiction qui sert aussi à des chercheurs en sciences dures, d'ailleurs aujourd'hui, la fiction peut nous permettre, pas de nous évader, mais d'imaginer, d'ouvrir les portes, les fenêtres, l'esprit, vers autre chose, à autre chose.
Oui, je pense qu'il y a dans la fiction non seulement une dimension d'expérience de pensée, c'est-à-dire de projeter des avenirs possibles, mais une certaine manière de faire grossir, de faire croître une dimension du présent dont nous avons l'impression qu'elle pourrait être féconde, ou au contraire, qu'elle est extrêmement inquiétante. On a beaucoup parlé ces dernières années de l'essor des dystopies, de toutes ces fictions noires qui nous présentaient un avenir. C'est un avenir qui était quoi ? Qui était au fond comme une lentille grossissante posée sur un aspect inquiétant de notre présent. Je crois que les fictions servent aujourd'hui en effet à cela. Elles servent non seulement à mettre en lumière ces dimensions inaperçues de nos existences, mais à nous indiquer des chemins à suivre ou des chemins que nous ne suivons que trop, en grossissant, en faisant croître, un peu comme on mettrait en culture, dans un bocal ou dans un petit pot de terre, une semence pour voir jusqu'où elle est capable d'aller. Et parfois, ça crée des plantes monstrueuses et carnivores. Et de cela, il faut s'inquiéter. Donc je crois que la fiction a aussi ce rôle d'alerte parce que, oui, c'est un incubateur de possibles.
Sophie Marinopoulos.
Oui, j'y entends une ouverture, quelque chose qui ouvre vers, mais le mot fiction est parfois mal interprété, donc moi je l'entends comme une construction qui permet d'ouvrir vers des champs dans lesquels on peut penser.
Et ben comment penser, comment nous relier, c'est bien autour de ces questions-là, comment penser autre chose, autrement, que nous tournons aujourd'hui. Je rappelle que Relions-nous, le premier tome de cette constitution des liens, vient de paraître, il y a marqué en dessous l'an 1 de cette première constitution. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que nous devons vraiment refaire lien, et au-delà des frontières aussi, ça sera sûrement pour le prochain Parlement. Il y a des voix, évidemment, des sacrées voix au Sud, qui manque à ce Parlement des liens. Je sais que vous le savez, Sophie Marinopoulos, ça l'étonnait pas.
Le Covid ne nous a pas aidés.
C'est clair. Mais allez, comme on est à la radio, par la magie des ondes, on peut aller loindre le sol, mais on peut vous faire écouter l'économiste et écrivain sénégalais Félouine Sarr, auteur d'Afrotopia et d'Habiter le monde, essai de politique relationnelle, qui avec son ami le philosophe camerounais Achille Bembe a initié les ateliers de la pensée, dans lequel nous nous sommes retrouvés, Mathieu Pot-Bonneville, à Dakar, avec les chercheurs du continent et de la diaspora. Je propose d'écouter l'éclairage de Félouine Sarr, recueilli donc au cours d'une nuit des idées face au présent, c'était à Dakar.
On est dans un monde en basculement. Et comment est-ce qu'on fait face au basculement du monde? Et comment est-ce qu'on apprend à refaire le monde? Donc l'idée d'être présent d'abord, elle m'intéresse. Du point de vue de même la notion de la présence, être là pleinement, en pleine responsabilité, en pleine conscience. Et je vais développer des pistes pour ce que j'appelle une montée en humanité. Donc face à un présent qui bascule vers où on ne sait pas trop. Donc voilà, on a plusieurs défis. On a un futur qui est devenu un temps sans promesse. Sinon, la seule promesse, c'est d'éviter la catastrophe écologique, entre autres. Donc, comment est-ce qu'on fait face à un tel présent? Donc, la question des générations qui viennent est absolument importante du point de vue de l'écologie, des ressources qu'on leur laisse, et du point de vue du monde qu'il faut laisser habitable. Ce qu'on s'est dit, c'est que le futur et le présent avaient son lot de défis à relever, et pour les relever, il était nécessaire que les jeunes chercheurs du continent se mettre dans l'idée de produire de nouveaux savoirs. Et ces nouveaux savoirs-là, il fallait justement les mettre en chantier, puisque les temps à venir vont apporter le lot de problématiques à résoudre. Et forcément, pour ces problématiques-là, il n'est pas dit qu'il ne soit pas nécessaire d'innover un peu et de se fonder sur une pluralité donc, d'archives intellectuelles, cognitives et culturelles.
Mathieu Pot-Bonneville, j'imagine que vous êtes d'accord avec Félouine Sarr. Comment innover, si ce n'est en faisant appel à une pluralité de points de vue
Oui, et en ouvrant des espaces pour ces points de vue. Je disais tout à l'heure que le rôle des institutions est d'ouvrir des espaces. Les ateliers de la pensée sont un extraordinaire espace ouvert à la diversité des savoirs et des voix du continent africain aujourd'hui, et à la productivité de cette machine à mettre en relation des pensées et des expériences africaines a été tout à fait saisissante. Félouine Sarr pose une question qui est, je crois, très importante. qui est celle de savoir d'où on regarde les liens qui nous unissent. Hein, parce que votre maison d'édition s'appelle Les liens qui libèrent, mais tous les liens ne libèrent pas.
C'est vrai.
Des liens étouffants, il y a des liens abusifs, il y a des liens asymétriques ou dissymétriques. Et le tableau du monde s'est quand même très longtemps tracé sur fond de liens asymétrique. Mmh. Moi, j'aime beaucoup le tout dernier livre de Felwenser qui s'appelle La saveur des derniers mètres, qui est un carnet de voyage où il décrit ses voyages dans de multiples capitales du monde. Et puis, lorsque, comme moi, on le lit depuis la France, on se rend compte que l'ordre de ces capitales n'est pas exactement celui qu'on aurait dressé soi-même, parce que, eh bien, il les traverse depuis un autre lieu, depuis l'Afrique, hein, depuis le Sénégal, depuis Saint-Louis, et au fond, ça n'est pas la même carte, ça n'est pas la même cartographie que l'on voit si l'on regarde le monde depuis le sud ou depuis le nord, et ces asymétries-là, il faut les prendre en compte, il faut tâcher de les corriger. Au fond, toute l'entreprise de quelqu'un comme Felwenser, c'est d'avoir intensifié les liens au sein même des scènes intellectuelles du continent africain, de façon à corriger ce qu'il peut y avoir de dissymétrique, d'inégalitaire dans les relations entre le Nord et le Sud, que ce soit sur le front de l'économie, de la politique, de la géopolitique ou de la pensée. Et cette entreprise-là, elle est infiniment nécessaire.
Sophie Marinopoulos, c'est vrai qu'on peut s'arrêter sur ce nom magnifique de votre maison d'édition, de ce parlement des liens, les liens qui libèrent, parce que c'est vrai qu'il y a des liens qui nous tiennent, il y a des liens historiques sur lesquels il faut revenir. C'est ça aussi quand même, c'est trouver les liens qui libèrent et corriger les asymétries, notamment Nord-Sud.
Oui, tout à fait. Alors, la maison d'édition a parfaitement conscience, en prenant ce nom, qu'elle venait provoquer finalement une réflexion autour de la question des liens. Bien sûr que tous les liens ne libèrent pas. Et pour autant, dans l'attention qu'on peut y porter, une fois encore, comment construire la relation à l'autre pour que les liens soient justement l'occasion pour chacun de s'épanouir, de se développer, de construire son propre cheminement. Et en entendant Felwenser, je me disais, je repensais à la question des points de vie. Bon, je trouve que...
Point de vie ou point de vue ?
Point de vie.
Point de vie.
Parce que point de vie, ça part de l'expérience sensible que l'on a soi. Et c'est ce que l'on va aller confier. C'est pour ça qu'il y a de la fragilité, il y a de la vulnérabilité. Et c'est ce qu'il faut partager. Par exemple, nous, on va souvent nous dire, oui, mais vous êtes des intellos, par exemple. Mais dans la vraie vie. Voilà. Et tout d'un coup, on coupe le monde en deux. Il y aurait ceux qui pensent, puis les autres. Ce n'est pas vrai. Nous pensons tous, nous avons tous des expériences, nous pouvons tous proposer notre regard sur le monde. Felwenser nous ferait une proposition entre le Nord et le Sud, mais on pourrait aussi entendre ça de la part d'un agriculteur Absolument. D'Auvergne par rapport à un professeur de philo à Paris ou à Marseille, j'en sais rien. Et c'est peut-être ce sujet-là qui aujourd'hui me préoccupe. C'est l'idée que ça appartiendrait simplement à une élite, la pensée. Ce qui est totalement faux. La pensée nous appartient à tous et nous devons apprendre à nous retrouver, à partager, à nous rencontrer. Et c'est pour ça que ces espaces, on y entre. Il n'y avait rien de plus simple que d'aller à Pompidou. Et en même temps, pour certains, c'était sans doute très compliqué. Que peut-être ils ont réussi à y aller accompagnés, mais... Voilà, vous étiez immédiatement accueillis, pas de démarche particulière, on vous proposait un casque, une idée absolument formidable dont Mathieu a parlé tout à l'heure, qui permettait à la fois d'être ensemble, mais à la fois d'être avec soi-même. Ça donnait une espèce de prestance aussi pour celui qui pouvait être en difficulté de venir dans ce lieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il pouvait aller s'asseoir comme s'il était au café. Et ça, c'était très important.
C'est vraiment l'idée, alors, de faire lien, d'ouvrir les fenêtres, les portes, enfin les frontières, aussi de montrer sa vulnérabilité. Parce que quand vous nous dites, Sophie Marinopoulos, que nous sommes vraiment des êtres de lien, pour le meilleur on l'espère et pas pour le pire, ça veut dire aussi qu'on est très vulnérable, puisque sans les autres on n'est rien, puisqu'on a besoin de liens pour vivre.
Oui, oui, et il faut accepter, vous rappeliez que j'étais psychanalyste, je ne travaille plus dans un bureau depuis longtemps, je reçois dans une cuisine, et les gens rentrent et viennent dans la cuisine et on partage autour d'une cuisine, quelque part, je me mets à table. Et il y a une symbolique forte dans ce que je propose là, en disant, voilà, la psychanalyste, elle est dans la cuisine avec vous et on va penser ensemble. Je n'ai pas de recette à vous donner, je ne vais pas dire ce qui est bon pour vous, de quel droit je m'autoriserai à ça, mais par contre, je sais qu'ensemble, on peut y réfléchir et qu'on peut trouver des solutions à ce qui vous préoccupe, à votre mal-être. Voilà, c'est ce... accepter cette vulnérabilité parce que ça crée la confiance. La confiance, c'est aller montrer cette part fragile. Et en même temps, il faut pouvoir accueillir la part fragile. Ce que notre monde n'arrive plus à faire. On ne veut pas voir la vulnérabilité, on ne veut pas voir la fragilité. Ça nous dérange.
Alors, c'est ça qui nous fait humains.
C'est notre humanité.
Et qui nous permet d'être ensemble. Allez, je vous propose pour nous réconcilier, pour faire lien autour de la question comment faire lien, de respirer tous ensemble avec Gaël Faye sur RFI.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin, le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain, triste face à face, angoisse du réveil, reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue, petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassinent, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Respire avec Gaël Faye sur RFI. Autour de la question comment nous relier, nous sommes en compagnie du philosophe Mathieu Potbonneville, directeur du département culture et création du Centre Georges Pompidou, qui vient d'accueillir le Parlement des Liens. Plus de 50 penseurs, scientifiques, chercheurs, philosophes, artistes de tous horizons et de toutes disciplines réunis pour dialoguer en humanité autour des liens qui nous constituent et pour établir une véritable constitution des liens. Ça, c'est de votre initiative, Sophie Marinopoulos, et de celle de votre maison d'édition, la bien nommée Les Liens qui Libère, qui édite aussi cet ouvrage « Relions-nous ». Alors, plus qu'un souhait, c'est une aventure nécessaire qui est en marche, un rêve éveillé et constructif qui sert de moteur, comme ce fut le cas d'ailleurs dans cet échange au cours de ce Parlement des liens entre l'historien Patrick Boucheron du Collège de France et le psychiatre et psychanalyste François Ansermet. Chacun avait choisi pour ce dialogue de se mettre dans la peau, ou plutôt en lien imaginaire avec un être qui les a inspirés, de jouer finalement à être le peintre italien Ambrosio Loretti pour Patrick Boucheron et Sigmund Freud, carrément, pour le psychiatre et psychanalyste François Ansermet. Écoutez un extrait de ce dialogue qui nous fait déjà sourire, de ce dialogue inouï qui les relie donc à travers tous les temps.
C'est un lien au sens propre qui libère, c'est-à-dire une corde avec laquelle le peintre Ambrosio Loretti fait toute une série de jeux de mots. Parce qu'avec la corde, en italien, on pourrait dire con corda, concorde. Et la concorde, c'est le fait de s'accorder dans des singularités qui sont différentes. Et regardez, sur la partie donc, dite des principes du bon gouvernement, il y a 24 conseillers qui sont chacun différents. Ils ont leur âge, ils ont leur habillement. Donc au fond, ce sont des sujets en peinture, mais ils sont accordés. Et pour le dire, le peintre a eu l'idée de leur faire tenir une corde.
Mmh.
Mais ce n'est pas une entrave, c'est littéralement un lien.
Effectivement, la question que vous posez avec l'idée de la corde et du lien, puisqu'on est dans le Parlement des liens et des liens qui libèrent, pose la question de la continuité ou de la discontinuité de ce qui relie les gens entre eux et de ce qui les relie dans le temps. C'est-à-dire, est-ce que je reste le même ou je change en permanence? Est-ce que je deviens différent ou le même? Ça, c'est le problème contemporain de la question de la trace dans les neurosciences, c'est-à-dire trace mnésique, trace historique, qui est en lien avec ce qui va suivre, qui est relié, mais qui en même temps est toujours potentiellement libéré. C'est-à-dire, ce qui était n'est plus, ce qui sera n'est pas encore.
Voilà comment on peut, enfin c'est vraiment un extrait, jouer avec tous ces liens dans l'espace et dans le temps. Le jeu est important aussi, Sophie Marinopoulos, dans cet échange, dans ce parlement des liens. Tout est permis.
Tout était permis. Il y a eu vraiment des échanges extrêmement différents. Et c'est vrai que Boucheron et Ansermet se sont lancés dans une performance, puisque l'un s'est annoncé comme Lorenzetti et l'autre comme Freud. Une rencontre improbable, puisque trois siècles les séparent, au moins, je crois. Donc, c'était... et on est... Voilà, on les a suivis. C'était complètement incroyable. Et en même temps, ils ont raccroché avec des thèmes qui leur sont chers sur, en effet, la question de la trace. Ansermet parle beaucoup de l'irréductible de la singularité, c'est-à-dire finalement comment le lien laisse une trace unique, irremplaçable, et comment... finalement, dans la trace de l'expérience, eh bien, on va retrouver à la fois la psychanalyse, on va à la fois retrouver les neurosciences. On a pu voir à travers ces jeux, ces mises en scène, finalement, quel sens pouvaient prendre les liens dans les différents discours qui étaient proposés. C'était assez... Il y avait du ludique et en même temps une approche très sensible.
Très sensible, on n'est pas obligé d'être d'accord non plus, je vais vous laisser conclure là-dessus, Mathieu Pot-Bonneville, sur cette question du lien, sur cette ouverture, sur cette friction finalement aussi entre discipline indisciplinée, avec l'imagination, avec les artistes, avec la question des lieux pour le faire aussi.
En écoutant Patrick Boucheron évoquer la corde qui se trouve sur la toile d'Ambrogio, sur la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, pour relier les conseillers par la concorde, je pensais à une ligne qu'on trouve chez Melville dans Moby Dick, qui est la ligne qui est dans le bateau, la chaloupe qui se lance à l'assaut de la baleine. Ça fascinait le philosophe Gilles Deleuze. C'est une corde, littéralement, à laquelle les différents marins sont attachés les uns aux autres, de manière à pouvoir être sauvés s'ils tombent à l'eau. Mais en même temps, si c'est une corde qui peut vous étrangler, qui peut vous balancer à la flotte si l'autre marin se retrouve embarqué parce que le harpon a frappé la baleine et que la baleine plonge. Bref, c'est la corde dans cette page extraordinaire du Moby Dick de Melville. C'est à la fois le symbole de notre interdépendance, mais je dirais de notre interdépendance pour le meilleur et pour le pire, du fait que nous sommes embarqués, hein, non seulement dans le même navire, mais tenus par la même corde, et qu'à la négliger ou à ne pas voir qu'elle est en train de s'entourer autour de nous, eh bien nous risquons purement et simplement de nous noyer. Je trouve que cette métaphore qui me revient en écoutant Patrick Boucheron, c'est la métaphore parfaite de ce dont il était question et de ce dont il sera question, je pense, dans les différentes étapes à venir de ce Parlement
de
des liens.
De ce Parlement des liens. Alors je vous renvoie, chers amis auditeurs et internautes, sur notre page pour avoir le lien internet pour réécouter tous ces échanges. Je cite également « Relions-nous la constitution des liens, l'an 1, paru aux éditions Les Liens qui libèrent ». Merci Sophie Marinopoulos. Merci Mathieu Pot-Bonneville. Je rappelle à nos amis auditeurs qui sont parisiens que le Centre Georges Pompidou propose jusqu'au 19 juillet le monde, le spectacle de danse, ça s'appelle Le Monde Raconte, Le Monde Raconte, autour de l'Afrique. On arrive à la fin de cette émission. Merci pour votre curiosité, chers amis auditeurs. C'est fini. RFI, la sélection.